t'imagines si toutes les histoires des aînés, ça se passait dans le futur?
Jusqu'à quand coude? Hop! Mais alors, Jean-Luc, est-ce que tu es en disposition pour qu'on se raconte plein de choses, ou est-ce que tu veux qu'on te laisse t'installer quelque part?
Ah non, je suis confortablement installé. J'ai des clopes de réserve et tout va bien.
Mais alors, tu nous parles d'où, là? Parce que c'est la première fois que moi j'enregistre quelqu'un au téléphone. Alors, mets-moi dans l'ambiance de ton environnement.
Alors, je suis dans la salle à manger, dans mon éternel fauteuil en bout de table, la fenêtre dans mon dos avec la rue et la place qui est devant la maison. Ah ben, pourquoi ça m'intéresse l'intergénérationnel? Parce que je l'ai vécu assez fortement. Les premières années de ma vie, j'étais chez ma grand-mère, avec l'arrière-grand-mère, mes parents, les tantes, tout le monde vivait dans la même maison. Et bah, évidemment, les gens sont pas les mêmes quand ils ont 60 ans, parce qu'après 60 ans, ça mourait beaucoup, et quand ils ont 10 ans. Donc, il y avait les générations qui avaient chacune leur presque leur territoire, leurs idées, mais il y avait un fonctionnement commun. Petit exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite. Par exemple, les pulls, quand ils étaient un peu usés, ils étaient détricotés pour refaire d'autres pulls ou une écharpe ou n'importe quoi. Enfin, on récupérait la laine. Et là, c'était très intergénérationnel. Moi, je me souviens avoir fait des tas de fois des plots ou être à faire les chevaux de l'autre côté du pull. C'est très marrant d'ailleurs, hein. Tu commences le pull, tu tires et puis hop, t'enroules la laine autour, ouais, autour de tes bras, et puis voilà. Ça, et puis de l'autre côté, t'as quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi, et la laine, c'est quelqu'un qui a 40 ans de plus que toi qui va la tricoter.
Ah, et c'est beau parce que ça fait le lien. Le fil de laine fait le lien.
Voilà. Et puis, ben, ça conduit à t'apprendre à tricoter le temps qu'on y est.
Ah ouais, tant qu'à faire.
Bah oui, hein.
Mais c'est super. Et donc, t'as vraiment grandi dans un foyer intergénérationnel.
Ah oui, oui, oui. Toute ma prime jeunesse, ouais.
Mais alors, qui es-tu, Jean-Luc? Quelles sont tes origines?
Mes origines?
Ouais.
Mon père et ma mère. Non, je suis rémois.
Quelles sont tes racines, si tu veux? Quelles sont tes racines?
Je suis rémois. Mon arrière-grand-mère qui vivait avec nous était mongole. Et mes grands-parents maternels sont de la région. Saint-Soupé, hein, c'est un bled marné. Et mes grands-parents paternels viennent de la région parisienne.
Ok.
Et tous dans le même quartier, qui est un quartier reconstruit après la Première Guerre mondiale, qui est on appelle ça le foyer rémois. Il y a deux foyers rémois dans Reims. Et le foyer, ça dit bien ce que ça veut dire, parce que toutes les maisons sont plus ou moins identiques, et tout le monde se connaît, tout le monde se parle, c'est un voisinage agrandi.
Ouais.
Avec jardin, avec partage de ressources, hein, c'était assez intéressant.
Ah oui.
Pas toujours, hein, parce que des fois le grand-père il m'envoyait chez une voisine de maison plus loin pour bêcher son jardin parce qu'elle, elle pouvait plus le faire. Ça, c'était un peu moins drôle, mais enfin.
Mais c'est quand même un échange de il y a une sorte de solidarité qui s'est créée par le voisinage.
Ah, tout le monde connaissait tout le monde et ça offre une grande liberté parce que les parents ou les grands-parents pensent toujours qu'il y a un œil qui surveille les enfants quand ils sont dehors. Or, en fait, comme tout le monde se dit ça, il n'y a pas d'œil du tout.
Bien pratique. Mais est-ce que tu as grandi dans une famille nombreuse, tu vois? Est-ce que vous étiez dans une situation aisée?
Non. Non, mes parents étaient ouvriers avec des petits salaires. Je me souviens que les toutes premières années, enfin, quand j'avais 5 ans, 6 ans, il leur arrivait d'avoir ce qu'on appelait une baguette à 36, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite baguette maintenant pour la journée, quoi. Mmh. C'était les durs, quoi.
Parce que ça ressemblait à quoi, Reims, dans ces années-là, tu vois?
Très, très ouvrière, cité. Il y avait deux cités, en fait. Mmh. Une cité bourgeoise dans un quartier vers Clémenceau, là où Mali a fait ses études, mmh. où là, il y avait des tisseurs, des gens qui travaillaient le tissu, en général. Okay. Des petites entreprises, mais assez cossues. Et puis le reste, c'était des cartonneries, enfin beaucoup d'usines. Et c'était une cité ouvrière. Hein.
Ok. Et alors, qu'est-ce que ça génère, ça? Parce que tu vois, moi, je me questionne vachement sur la place du progrès. Puis le fait d'avoir grandi, du coup, dans une ville industrie, dans une ville usine, il y a quelque chose qui, pour moi, est un peu comme contraire à l'intérieur de ça, parce que grande collectivité, du coup, ce que tu disais, sentiment d'appartenance, parce que on travaille à très très nombreux pour faire fonctionner quelque chose, mais à la fois, il y a une misère, puis il y a un gros labeur.
Ouais, misère, c'est exagéré.
Misère, c'est exagéré.
Okay. C'est une pauvreté financière. Mm-hmm. Mais il y a des potagers, il y a des volailles, il y a des lapins, donc la vie n'est pas si dure, sauf à quelques moments. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les embauches dans les usines se font par cooptage. C'est ou la famille ou le voisin, enfin on fait toujours embaucher quelqu'un qu'on connaît. Ce qui fait que comme il n'y a pas de moyen de locomotion, il n'y a pas de voiture, il y a quelques vélos et la plupart du temps les gens sont à pied, tu as une cohorte de gens qui se déplacent pour aller au même endroit, aux mêmes heures, en discutant, c'est assez gai, ils vont au labeur, mais ils vont avec le sourire.
Et est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce que t'as des souvenirs de musique de travailleurs? Est-ce qu'à ces endroits-là, il y avait aussi des musiques?
Sur le trajet du boulot, non. Dans les ateliers, j'ai bossé assez jeune, vers 14 ans, où travaillait mon père. Et moi, je connaissais tous ceux qui bossaient avec lui. Et là, ouais, ça chantait beaucoup dans l'atelier, ça plaisantait, c'était relativement gai. Mmh. Mais ça chantait, les gens chantaient, parce qu'il n'y avait pas, il y avait une radio des fois dans la maison, mais c'était même pas sûr. Il n'y avait pas de, il n'y avait rien pour écouter de la musique. Si tu en voulais, fallait la faire. Hein.
Mais c'est bien. Ça change le rapport à l'instant.
Ah oui, oui. Ah, complètement.
Ça. Et ouais. Et je revis ça avec ta fille, parenthèse pour l'audio et non montage, me retrouver avec Mali qui engage tous ses copains à jouer de la musique ensemble et qui fait vivre des moments de création autour de la musique, ça. Ça, c'est un vrai truc qui, pour moi, est un rituel de, tu sais, être ensemble, quoi. Ça,
ouais, ouais.
Ça crée un truc collectif. C'est assez fou, quoi.
Ouais.
Ouais. Et alors, toi, c'est quoi ton rapport à la musique, Jean-Luc?
Oh, il vient un peu plus tard. C'est l'entrée au lycée et la découverte du rock'n'roll.
Oh.
Et derrière, le blues, évidemment.
Raconte ça.
Il ne me quitte pas. Ben, j'ai eu un copain en particulier qui m'a fait écouter. Lui, il avait de quoi écouter de la musique. Il m'a fait écouter du John Mayer. Et ben, depuis, c'est plus ça.
Mais tu joues d'un instrument?
Non, non, absolument pas.
Mais t'as envoyé Mali au violoncelle.
Bah, on l'a envoyé après l'initiation musicale, c'est elle qui a choisi le violoncelle, hein. C'est pas nous qui lui avons imposé.
Ah, oui. Et t'avais vraiment le désir que tes enfants fassent de la musique?
Un désir pas plus profond que ça, non, c'est bien. Mais si elle avait dit non, ça aurait été non.
Ouais, ils sont libres de leur choix.
Absolument.
Oh, c'est beau.
D'abord, elle préférait faire du foot à cette époque-là que du violoncelle.
Le grand plaisir de maman.
Trop bien. Et alors, comment est-ce que tu traverses les époques musicalement? Est-ce que tu découvres constamment des artistes qui te font des épiphanies, tu vois? Est-ce que...
Non, je suis resté très fidèle à mes vieux trucs. Et les découvertes, bah, c'est avec ma vie. C'est avec... Ce sont les jeunes qui amènent les choses nouvelles, qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Ça, c'est très variable. Mais c'est avec eux que je découvre ce qui se fait maintenant. Je n'ai plus cherché une musique nouvelle par moi-même. Mmh.
Et est-ce que t'aimes garder les anciens formats, tu sais, les CD, les vinyles et tout?
Ou est-ce ouais, que oui, j'ai encore des vinyles et j'ai mes CD, ouais.
Ouais.
Est-ce j'ai que... même des bandes encore. Hein.
Ah, waouh. Parce que, tu sais, il y a eu le passage numérique. Moi, ça m'intéresse, si t'as envie d'en discuter un peu, comment est-ce que toi, t'as transitionné vers le numérique? Est-ce que t'as trouvé...
C'est un peu spécial pour moi parce que j'ai été informaticien. Donc, je me suis retrouvé dedans professionnellement. Donc, ça n'a pas bouleversé ma vie. Mm-hmm. C'était un passage presque naturel pour moi.
Donc, tu étais ravi du progrès, quoi?
Non, pas du tout. C'était pas... J'aimais bien les vinyles, par exemple. Mais oui, ça arrivait inexorablement, quoi. Ouais. J'ai pas eu l'impression de le subir. Mais si ça n'était pas arrivé, ça aurait été aussi bien.
Et comment est-ce que tu vis le progrès numérique, Jean-Luc?
Oh, ben, assez mal, parce que je te dis, j'ai été informaticien. Mmh. Et au début, quand je bossais en informatique, le but était vraiment de retirer la routine aux gens pour qui on bossait. De leur permettre d'avoir un boulot plus intéressant, quoi. De leur retirer toutes les tâches qui étaient répétitives. Mmh. Et ça a duré, 4 ans en étant généreux. Et puis après, c'est devenu gain de temps et travail supplémentaire pour les gens. Quoi. Les gens sont préoccupés de moins en moins, se préoccuper que des résultats à but financier.
Mmh. Ok, donc c'est ça le glissement en fait. C'est ça le glissement du capitalisme, c'est l'arrivée.
Ah oui, ça a été un glissement sournois et rapide.
Ah ouais?
Ben la première partie était vraiment un plus pour les gens. Donc les gens ont adhéré, les comptables, les secrétaires, ça leur facilitait le travail. Et une fois qu'ils ont été bien intégrés dans le truc, et ben bing, tout change. Et là, ils ont travail supplémentaire.
Ah ouais, c'est ça. Parce que on dirait que c'était fait pour vraiment permettre une meilleure existence, mais au final, en fait, ça nous demande toujours, ça nous pousse toujours plus à la productivité.
Absolument, ouais. Et oui, c'est fait à la productivité, au flicage aussi. Hein. Oh. Ça permet de savoir qui travaille réellement et comment, à supprimer des postes. Mm-hmm. C'est... Ouais, bon, j'ai quitté l'informatique en grande partie à cause de ça.
Ouais. Quel enfant t'étais ?
Libre. Avec plein d'espace. Mmh. Avec plein de gens pour s'occuper de moi. J'avais 1, 2, 3 tantes autour de moi pour qui j'étais la poupée. Donc j'étais gâté, pas d'un point de vue matériel, mais par exemple avec les livres, les histoires, les chansons, tous ces trucs-là, j'en ai toujours eu. Depuis ma naissance, les balades, même la découverte du spectacle vivant. Je crois qu'on m'a emmené voir Edith Piaf et Gilbert Bécaud avant que j'aie 6 ans.
Waouh. Mmh. Oh, waouh. Et alors, c'est quoi la musique de ton enfance?
Voilà, j'ai toujours des musiques plein la tête, Hello. Alors, il y a de tout. Ça peut être de la musette, de la chanson pop populaire type Piaf ou les gens de l'époque, mais il y en a toujours une qui me revient et je siffle ou je fredonne du matin jusqu'au soir. Quelquefois la même pendant toute la journée, ce qui est assez emmerdant. mais ça revient comme ça et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a pas mal de chansons dont je pense ne pas me souvenir. Enfin, si on me pose la question, je connais pas ou je me souviens pas. Et à des moments, ça vient comme ça, par petits morceaux. Et hop, j'ai une chanson que je pensais ignorer, ouais. et dont je connais même les paroles.
Mais alors, comment est-ce que toi, tu te places, genre là, actuellement dans ta vie, par rapport à la transmission? Qu'est-ce que ça te génère, le fait d'être un passeur d'histoire?
La normalité. J'adore l'Afrique. et c'est un pays d'oral, plus que d'écrit. Donc l'histoire et le passage et l'initiation et toutes ces choses-là sont naturelles et obligatoire, parce que c'est comme ça que survit la tribu ou la société. C'est ce qui me convient, moi.
Ah ouais. Alors tu dirais que c'est un peu des préceptes initiés, faire avec et tout ça, quoi.
Pas vouloir donner l'exemple, pas vouloir s'imposer, dire ce qui devrait être ou donner les moyens de les découvrir.
Ok. Et alors, qu'est-ce que c'est ton rapport avec l'Afrique? Parce que tu as quand même appelé ta fille Mali.
Parce que elle te racontera l'histoire elle-même. Je suis allé en Afrique et quand j'ai connu la mère de Mali, je partais en Afrique comme prof de bourse.
Comme prof de quoi?
De brousse.
De brousse? Qu'est-ce que c'est, prof de brousse, Jean-Luc?
C'est être instit ou instit et prof, parce qu'en général, il n'y a qu'une classe, dans un endroit complètement reculé, dans la brousse.
Parfait. Super. Et alors, tu as fait ça pendant combien de temps?
Je l'ai pas fait.
Ah, tu l'as pas fait?
J'étais sur le départ quand...
T'es tombé amoureux, quoi.
Quand Geneviève est... Ah oui, j'étais prof. Quand Geneviève est arrivée et m'a mis le grappin dessus avant que je mette mes valises dans l'avion.
Ah là là.
Donc, à la place d'aller au Mali, j'ai fait le Mali.
Fabuleux! Qu'est-ce que ça veut dire, le blues, c'est nos racines?
L'origine du blues était de raconter les racines des esclaves, leurs racines africaine pour la plupart, pas tous, il y en a qui venaient d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce rythme lancinant et ces paroles toujours tristes et qui rappellent le pays. Alors, le blues a une origine africaine, hein, indéniable.
Ah ouais, c'est une chanson d'espoir.
Ouais, c'est une chanson de justement de faire passer les coups de cœur. C'était une façon aussi de dénoncer les patrons et l'esclavage en transformant les mots. Vous pouvez pas dire mon patron c'est un sale con, mais c'était dit autrement quoi. Ça voulait dire ça aussi. Bon, puis je te dis, pour moi, ce sont les racines.
C'est les religions,
tu sais ce que c'est ?
Non.
Les esclaves, avant de partir, avaler une pierre ou quelque chose du pays, avant d'être déportés dans les bateaux. Mmh. Alors que c'était la pierre qui roule.
Pierre qui roule. Ouais. Ils avalaient une pierre.
Une pierre, je sais pas si t'avais des Sénégalais ou des Maliens, ils avalaient une pierre sénégalaise ou malienne avant de déporter.
Pour porter ça en eux, quoi.
Voilà, pour avoir les racines en eux.
Un bout de territoire.
Voilà.
Ah ouais.
Plus que le territoire, c'est. Là, c'était la vie.
Est-ce que t'as une chanson de blues à me partager?
Bon, c'est toujours pareil quand on demande quelque chose de précis comme ça. Il y en a tellement qui viennent que ça se bouscule, il n'y a plus rien.
Sur l'autoroute.
Moi, j'aime bien I Play the Blues for You.
J'ai pensé à Blues for Mama, je pensais que t'allais dire ça, pas.
Oui, bah, Blues for Mama, c'est le même format. Ouais, Blues for Mama, bien sûr.
Et pourquoi cette chanson-là en particulier?
Mais une que j'aime beaucoup et qui pourtant est loin du début, c'est Laurel Canyon de John Mayer.
Est-ce que tous tes plus beaux souvenirs s'expriment comme une musique dans ta mémoire?
Non, pas tout, mais beaucoup. Mm-hmm. Non, le sport aussi est très important.
Ouais.
Ouais, là. Beaucoup de mes amis viennent du sport. Hein. Mmh.
Et comment est-ce que tu retraces ta mémoire ces temps-ci, Jean-Luc ?
Retracer la mémoire ?
Ouais.
Alors, j'ai pas l'habitude de me retourner sur mon passé. Quand je le fais, c'est plus pour les autres. Et ben là, j'avais commencé à écrire justement. Mon passé, pour plus à destination de Mali, par exemple, ou de gens comme ça. Mais c'est assez marrant parce qu'il y a plein de choses auxquelles je ne pensais absolument plus et qui reviennent complètement vivantes. Mais en général, je ne pense pas au passé. Le présent et l'avenir me suffisent.
T'as comme des réminiscences de souvenirs que t'avais oubliés, quoi, ces temps-ci, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, c'est pas oublié, mais t'y penses pas, donc ça n'a plus d'importance, et puis quand tu te forces à retourner à cette époque-là pour de façon un peu précise, c'est marrant, c'est très intéressant même.
Ah ouais. Et est-ce que t'as des images quand tu penses à des souvenirs? Ou est-ce que
Ah
c'est des
oui, bien sûr.
sensations?
Non, non, il y a des images avec très, très claires.
Ouais.
Là, j'étais en train de penser au décrassage du samedi. Et je t'ai dit, il n'y avait pas de salle de bain, donc c'était un baquet avec de l'eau chaude et enfin de l'eau chaude, de l'eau chauffée sur la cuisinière et quelqu'un qui trottait dans la baignoire. C'était un moment de rigolade et de. C'était collectif, rigolo et en fait un bon moment. Sinon, les gosses avaient quand même une chance extraordinaire, hein. Ils pouvaient échapper à la toilette assez facilement.
Ah ouais. C'est trop fou, c'est tellement une autre époque ça aussi, le
Ah
rapport à cette pudeur-là, tu sais. Maintenant, on a beaucoup de pudeur du rapport au corps et tout ça. Pourquoi tu dirais qu'il y a des gens de ta génération, d'un peu avant et d'un peu après, qui n'entendent pas la situation climatique?
parce qu'ils ont l'impression que ça va leur retirer quelque chose. Et puis c'est un sujet. Tu sais, après moi le déluge, c'est pas fait pour rien. Hein. C'est pas une expression vide. Les gens plus vieux disent de toute façon on ne le connaîtra pas. Et puis je crois que, enfin je sais pas, je peux pas parler tout le temps à leur place. Mais se remettre en cause à 70 ou 80 piges, c'est pas facile, il faut du temps, hein. Et il y en a plus.
Elle est dure, l'expression après moi le déluge.
Est très dure. Ça veut dire qu'on se fout des autres, mais elle est très dure.
Elle est dure parce que elle est individualiste et elle fait entendre ce qu'on a rendu, quoi, tu vois, ce que l'humain est devenu.
Absolument. Mais je crois que les gens se sont fait avoir, ils sont devenus prisonniers du matériel et tout ce qui leur laisse à penser qu'ils vont perdre une partie de leur matériel les rebute. Donc on ferme les yeux, on refuse de s'informer, et on dit c'est pas pour moi, c'est pour les autres.
Ouais, ça sera pas pour ma pomme. C'est quand même difficile parce que du coup on crée des creux de compréhension générationnelle.
Ouais, c'est pas seulement générationnel, hein. C'est, enfin, j'espère que vous prenez ça, enfin, vous, je parle des jeunes, prenez ça beaucoup plus à cœur et de façon collective, mais chez les anciens, sont des discussions difficiles.
Mais t'as pas l'impression que ça fait longtemps que vous avez ces sujets-là qui sont mis sur le plateau?
Non, il y a longtemps qu'ils existent, il y a longtemps que ceux qui s'intéressent à la politique ou à l'environnement sont au courant, mais que c'est sur la place publique, non. Il y a des gens pour qui c'est encore une découverte, hein.
Qu'est-ce que t'aimerais dire?
Oh, une phrase toute simple.
Ouais.
Ne regardez pas les autres en ennemis, mais en amis. Point.
On t'a vu plus inspiré.
Non, mais peut-être, mais là non.
Et blanc.
Ça suffit largement, hein, c'est assez.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là?
Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas à se méfier, à avoir peur. Ça veut dire que les autres, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur façon de vivre, ils ont un intérêt. Donc, faut aller vers eux.
Oh. Merci Jean-Luc.
Mais de rien, mais je vous laisse vite parce qu'il faut que je fasse à manger, on a des invités ce soir.
Oh. Mais ça m'a fait plaisir de t'avoir en interview. C'est qui vient?
C'est Benjamin et Marie.
Oh la chance!
Ah bah lui, hein, qu'est-ce que tu veux?
Je leur fais des gros bisous.